Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Au micro, pour intervenants et témoins, cette semaine, ce sont les responsables de la maison du Cénaculo à Lourdes que je reçois, Franco et Bernadette, mariés depuis 2003. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour.
Alors, on va revenir très vite, hein, et ça, c'est votre expérience à vous, Franco, dans une de ces maisons. Vous revenez, vous aussi, de loin, puisque vous avez... Vous êtes égaré pendant, je crois, près de 23 ans.
Oui, hein, c'est ça.
Toxicomane, essentiellement. Oui. Racontez-nous très vite un peu ces 23 ans de parcours et cette arrivée dans une des maisons du Cénaculo. Oui. Mais il y a eu 23 ans d'égarement.
Oui. J'arrive d'une famille italienne, vous l'entendez bien, je pense. Et j'étais le plus petit des trois enfants, une famille catho, mais je me suis éloigné un peu de tout, surtout de la prière, aussitôt. Je me suis perdu aussi à l'adolescence avec l'alcool et la drogue, et j'ai évolué vraiment avec plein de masques que je mettais pour dépasser mon mal-être dans plusieurs situations. Avec l'âge, j'ai évolué aussi avec les drogues. J'ai touché un peu à tout. Et au début, c'était beaucoup d'alcool. Mon père, il était un peu absent parce qu'il nous aimait, mais pour donner des choses matérielles, qui, c'était sa façon de nous aimer. Mais ça nous manquait un peu, surtout sa fermeté. Moi, je me souviens, je prenais des cuites à 13, 14 ans. Je rentrais samedi soir. Et mon père, le samedi d'après, il m'a redonné de l'argent pour ressortir et savait bien qu'est-ce que j'allais faire. Il n'arrivait pas à cette force, cette fermeté pour m'aider. Après, j'ai grandi. À 22 ans, j'ai ouvert une boîte de nuit. Je me suis perdu avec d'autres types de drogues, avec, entre guillemets, une belle vie. À 29 ans, mon meilleur ami est décédé après qu'il n'a pas fait la fête toute la nuit. Il a eu un accident de voiture. Et là, je me suis laissé encore plus aller. Je suis arrivé aussi à toucher l'héroïne. Et après, pour, je suis parti en Afrique parce que j'avais marre de tout. J'étais en Afrique pendant 7 ans, mais c'était bien les premières 2 ans où j'ai vécu des expériences humaines très belles. Et ma foi, elle était très loin encore. Et après, la drogue, elle a repris vraiment, je dirais, les pouvoirs sur moi. Je pense que j'ai commencé à me droguer parce que j'ai pour une soif de liberté, je voulais faire tout ce que je voulais. Et enfin, ça m'a rendu esclave. C'est vraiment un piège, la drogue. Et tu penses d'être libre, faire ce que tu veux. Mais enfin, non. Tu deviens esclave d'un produit et d'autres situations. Et tu développes surtout une mentalité tordue. Je pense que vraiment la toxicomanie, c'est pas une maladie, mais c'est une mentalité tordue où tu deviens menteur, paresseux, tu n'as plus de volonté.
Manipulateur.
Manipulateur, bien sûr. On devient des professionnels pour jouer avec les sentiments d'abord de nos parents et après de nos proches. Et ça, et aussi avec nous-mêmes. On raconte des histoires à tout le monde, mais surtout à nous-mêmes. Et ça, on est perdu. Après, ma sœur aînée, elle a écouté un témoignage des jeunes du Cénaculo et de sœur Elvire, c'était 90, il a commencé à prier pour moi, il a prié tous les jours pour moi que j'entre au Cénaculo, et après 10 ans, alléluia, j'ai touché le fond, j'ai essayé aussi le suicide 2 fois la dernière année, 1999, et après, j'ai demandé de l'aide à ma sœur.
Est-ce qu'on peut vous demander pourquoi ces 2 tentatives de suicide? Vous étiez au bout de l'enfer, vous étiez tombé trop bas.
Oui, j'avais l'honte de moi-même.
Honte de vous-même.
L'honte de moi-même à vouloir changer, arrêter, mais c'était plus fort que moi, je retombais tout le temps. Et tout seul, je suis toujours retombé. J'ai eu besoin d'abord de ma sœur, qui l'a prié pour moi, qui m'a indiqué le Cénaculo, d'un jeune prêtre qui m'a parlé du Cénaculo, il m'a expliqué, et de jeunes garçon qu'elle m'a accueilli, elle m'a vraiment donné une espérance, le courage de voir et pouvoir relever la tête et commencer un nouveau chemin.
Vous êtes arrivé à quel âge au Cénaculo?
À 37 ans hein, et demi, je suis entré au Cénaculo et j'étais encore un ado parce que j'ai, avec 23 ans de drogue, j'étais vraiment perdu. Je n'arrivais pas à évoluer, à assumer, à trouver mon identité, à trouver aussi, à devenir un homme.
Alors enfin, vous vous rappelez, quand on débarque à 37 ans dans une maison du Sinakulo, vous vous rappelez de ce premier jour, ces premières semaines, vous êtes déboussolé, vous regardez de partout, qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous découvrez?
À 37 ans, on a déjà vécu un peu, j'avais une expérience de vie, et je suis arrivé dans un lieu où...
Qui ne ressemblait absolument pas à une boîte de nuit.
Non, ça c'est sûr, mais... Le matin, il s'est levé, on allait à la chapelle, et 40 gars, boum, un genou. Et moi, je disais, moi, je ne me mets pas un genou. Et le troisième jour, je me suis trouvé un genou moi-même. Et je les prenais aussi par un peu fou, dans le sens, qu'est-ce qu'il en fumait pour être comme ça, gentil,
un peu allumé,
bienveillant.
Hein, illuminé.
Je les prenais tous pour des naïfs, mais après, j'ai compris que ce n'étaient vraiment des personnes comme moi. Qu'ils avaient vécu des expériences très fortes aussi dans les ténèbres, qu'ils avaient des blessures, mais qu'ils arrivaient à surmonter tout ça. J'étais très touché dans mon ange gardien. C'est le garçon qui t'accueille quand tu arrives au Sénacolo. Et lui, je me levais le matin, j'allais aux toilettes, je revenais, il avait fait mon lit. Il m'a rangé mes affaires dans mon armoire. La nuit, j'arrivais pas à dormir parce que j'étais encore... pas trop bien, il s'est levé, il me faisait une tisane. C'était vraiment des gestes gratuits qui m'ont touché le cœur, d'une façon concrète. Avant aussi de recevoir la grâce de rencontrer le Seigneur. Je vous dis ça, après un mois et demi, deux mois, je voyais toujours ces gars s'élever la nuit, un peu en silence, ils descendaient. Et j'ai décidé de les suivre. J'ai dit, peut-être ils vont fumer un clope, ils vont faire quelque chose. Et non, ils allaient tous à la chapelle, devant un petit bout de pain, là, en genoux, en silence. Et j'ai voulu les suivre. Et pour moi, c'était enthousiasmant. C'était quelque chose vraiment, comme tomber amoureux de quelque chose. J'ai reçu cette grâce. Et chaque jour, j'arrivais à le surmonter, à rester. Parce que c'est pas facile, rester dans l'endroit où... les autres, ils te disent quoi faire, il faut obéir, il faut rester à sa place, il faut vivre concrètement, il faut s'élever, travailler, prier. C'était pas mon façon de faire. Se coucher à 10 heures, manger à l'heure, tout qu'est-ce que tu as dans l'assiette. C'était vraiment une école de vie, quand même. Mais sans cette prière la nuit, pour moi aussi, c'était la clé des changements. Chaque nuit, j'arrivais à ouvrir mon cœur devant Jésus et ça sortit un peu de mal et ça rentrait un peu de bien. Et petit à petit, je me trouvais à faire des gestes dans la journée que je ne reconnaissais pas Franco. C'était un autre Franco. C'était vraiment quelque chose de plus positif et plus beau.
Au fond, devant ce tabernacle à genoux, les ténèbres se dissipaient, sortaient et c'était la lumière qui rentrait dans votre cœur.
Oui, on peut dire ça. Vous avez beaucoup de beaux mots, des traits. C'est ça. Je sens que j'ai ressenti quand même une légèreté arriver à moi et quelque chose qui me faisait vraiment dénouer, enlever des nœuds qui sont étaient dans le profond de mon cœur. Et petit à petit, ça partait et je devenais vraiment un peu plus ouvert et aussi, je pense, surtout vrai. Une chose que ça m'avait vraiment manqué. J'arrivais à me dire la vérité et à écouter la vérité des autres. Ça, c'est vraiment une autre clé très importante du Cénacolo.
Alors, la clé de la chapelle devant l'adoration et cette autre clé que Bernadette, votre épouse, ici à vos côtés, qui aujourd'hui, dans ce deuxième entretien, a peu parlé. C'était en particulier le témoignage de votre époux Franco, qui est sorti après 23 ans, si je ne me trompe, de l'enfer et des ténèbres pour accueillir cette lumière. Cette lumière. Cette vérité, vous en avez parlé hier dans la première émission, c'est une des clés qui peut aussi résumer toutes les maisons du Sénacolo.
C'est vrai, c'est assez impressionnant. quand on arrive dans une des maisons, ben déjà rien que la rencontre avec avec sœur Elvira, voilà, c'était ça. Elle regardait et on savait qu'elle voyait tout, quoi. Elle voyait plein de choses que les autres voyaient pas.
Est-ce que ça fait paniquer ça, ou au fond ça fait du bien?
Ben c'est un peu les deux. Il y a un peu les deux parce que bon, c'est
beaucoup
vrai
d'émotions hein, quand vous parlez de sœur Elvira.
Oui, ben c'est vrai que
c'est votre mère.
C'était fort. Ben quelque part, oui, c'est un peu. On peut dire que c'est une de mes mamans, oui. Et comme tous les garçons, hein, qui sont au Sénacolo, ils ont vraiment voilà cette femme dans le cœur et ça reste une mère pour chacun. Et c'est vrai que c'est ça qui frappe, en fait, cet esprit de vérité qu'on sent, qui est palpable dans la communauté. Quand on rentre, voir tous ces garçons à genoux, qui se laissent regarder aussi, et voilà, qui petit à petit se découvrent, et voilà, toutes ces peurs qui tombent, on se retrouve tel qu'on est. Voilà.
Alors restons avec vous au Sénacolo encore quelques jours, demeurons aussi dans cet esprit de prière au fond, hein, cet esprit de prière qui vient relever, restaurer, et cet esprit de vérité qui nous rend libres, la liberté des enfants de Dieu. Franco et Bernadette, je vous remercie de votre présence aujourd'hui dans Des Clés pour Vivre, et on se retrouve pour d'autres clés dès demain à la même heure, et merci.
Merci.